et merci d'avoir choisi Europe 1. Il est midi.
3, 2, 1, 0.
La cloche qui retentit pour saluer l'entrée en bourse de la Française des Jeux, c'était ce matin. Sébastien, l'action bondit déjà.
17 ans que le père d'Élodie Kulik attendait ce moment. Le procès du meurtrier présumé de cette jeune directrice d'agence bancaire s'est ouvert ce matin. C'était devant les assises de la Somme. Un retour périlleux pour Emmanuel Macron sur ses terres à Amiens. Les ex-salariés de Whirlpool et des étudiants l'attendent de pied ferme aujourd'hui et demain. Les étudiants justement qui dénoncent leur précarité.
En général, je donne 100 euros à ma mère parce qu'on est 4 enfants. Du coup, j'aide un peu ma mère quand même. Donc il me reste 200 euros pour le reste. Mais en général, je finis pas les mois. Je saurais même pas vous dire où part mon argent.
La précarité des étudiants, c'est notre dossier du jour. Une appli pour votre compte formation, c'est tout nouveau. 25 millions de Français sont concernés. Le tennis, la Coupe Davis, la France doit franchir l'obstacle serbe. Attention, emmené par un certain Novak Djokovic pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Nous irons voir comment s'en sort Joe Wilfried Tsonga pour le premier match. Et puis ça y est, Raphaël, il est arrivé.
Excellent cette année. Donc il a ni goût de banane, il a un goût très rond. Et il est très parfumé.
C'est bien sûr.
Le Beaujolais.
Le Beaujolais nouveau. Hélène Terzian est auprès des premiers consommateurs. La météo, Céline Dacosta, après-midi pluvieuse près de la Méditerranée.
Oui, des averses régulières et soutenues. Un temps plus variable pour la Corse et pour le reste du pays. C'est couvert et pluvieux sur la façade atlantique. Il reste du soleil de l'Île-de-France au Grand Est. Merci Céline. Météo complète à la fin de ce journal sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est la star du jour, Sébastien. L'action française des Jeux entre en bourse aujourd'hui.
Oui, et quel succès, vous le savez. L'action a été plébiscitée par les Français. 1,5 million de personnes qui ont participé à la souscription. Un succès spectaculaire, selon Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie était présent ce matin à la Bourse de Paris, où Carole Ferry, la traditionnelle cloche, a donc retenti, comme pour chaque nouvelle introduction en bourse.
3, 2, 1, 0.
Et voilà, effectivement, la cloche a été tirée à 9h30 pile, marquant symboliquement l'entrée en bourse officielle de la Française des Jeux. Une demi-heure après l'ouverture des marchés, normalement elle est plutôt tirée à 9h, mais là, vu l'ampleur de l'opération, tout le monde a préféré laisser du temps aux banques, aux marchés, pour absorber cette introduction. Un moment historique, selon la patronne de la Française des Jeux, Stéphane Pallez, qui a laissé au ministre de l'économie l'honneur de mettre la cloche en mouvement. Sitôt sonné, l'action s'est envolée à plus de 18%. Rassurant pour les épargnants, même si la bourse reste la bourse, a rappelé Bruno Le Maire.
Je ne vais pas lire dans le marc de café, je ne suis pas Madame Irma, mais je pense que les Français qui ont investi dans la Française des Jeux ont fait un placement qui est responsable. Toujours un risque, je le rappelle, investir en bourse, c'est la réalité. Mais là, c'est un risque qui me paraît calculé, un risque qui est raisonnable, parce que la Française des Jeux est une entreprise qui est solide. Et ce que je souhaite effectivement, c'est que ce succès de l'introduction en bourse de la Française des Jeux marque la réconciliation des Français avec leur économie, la réconciliation des Français avec l'investissement un peu plus risqué dans leurs entreprises.
Et à l'instant, alors que je me trouve juste à côté de la salle de surveillance des marchés, l'action Française des Jeux est toujours en hausse de plus de 16%. Achetée 19,50€, je vous le rappelle, elle vaut actuellement 22,64€.
Merci Carole Ferry en direct de la Bourse de Paris.
L'autre grand titre de l'actualité, Sébastien, c'est le procès du meurtrier présumé d'Élodie Kulik. Plus de 17 ans déjà que la famille de la victime l'attendait.
Oui, Élodie Kulik, une jeune femme de 24 ans, directrice d'agence bancaire, violée, étranglée alors qu'elle se rentrait chez elle. Son corps avait été retrouvé dénudé et partiellement calciné près de Saint-Quentin, près de Péronne même, dans la Somme. L'accusé, Willy Bardon, a 45 ans et il clame son innocence. Face à lui, le père d'Élodie Kulik, Lionel Gougelot, vous avez assisté à ce premier face-à-face ce matin devant les assises de la Somme.
Effectivement, et la première image qui frappe, c'est cet accusé, non pas dans le box, mais assis sur le banc à côté de ses avocats, puisque malgré les charges qui pèsent sur lui, Willy Bardon comparaît libre, conséquence de la longueur de l'instruction et des différents recours de ses avocats. Stature massive, crâne dégarni, Bardon évite soigneusement le regard fixe de Jackie Kulik, un face-à-face que le père d'Élodie ne redoute pas.
S'il y a quelqu'un qui doit le redouter, c'est Bardon. La passion, c'est pas moi qui l'aurai, c'est lui qui l'aura. Donc, ça m'étonnerait qu'il parle. Par contre, ce que j'attends, c'est de la part des jurés, j'attends une condamnation condamnation à une peine très très lourde, qui soit à la mesure des souffrances que moi j'endure depuis 17 ans.
Repéré dans l'entourage de Grégory Viard, violeur d'Élodie, identifié par ADN mais décédé peu de temps après, Bardon clame son innocence. Un seul élément l'accuse, sa voix, reconnue par des proches, sur les quelques secondes de l'enregistrement de l'appel d'Élodie aux pompiers au moment de son agression. Insuffisant, selon ses avocats Stéphane Dacco et Marc Bailly.
Cet enregistrement audio, il existe. Quant au travail qui est de dire un familier peut reconnaître quelqu'un, les experts nous disent que c'est possible, mais dans certaines conditions qui ne sont pas établies dans le dossier.
On a désigné un coupable depuis 7 ans. M. Bardon clame son innocence. Et il y a beaucoup d'éléments qui doivent être débattus.
Et pour cela, la cour d'assises d'Amiens prévoit 2 semaines d'audience avec des dizaines de témoins, d'experts et d'enquêteurs attendus à la barre pour évoquer près de 12 ans d'enquête.
Lionel Gougelot en direct des assises de la Somme. Et le procès doit se tenir donc sur 10 jours jusqu'au 4 décembre. Autre procès attendu cet après-midi, celui d'un policier jugé pour des violences contre des gilets jaunes. Le premier du genre. L'homme avait lancé un pavé sur les manifestants. Nous y reviendrons dans le journal de 13h.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 5. Et la suite de votre journal, Sébastien Guyot, Raphaël Duchemin.
Désamorcer la grogne sociale. Et la journée noire qui s'annonce le 5 décembre prochain, ça va devenir vraiment très difficile. C'est pourtant, Sébastien, l'objectif du gouvernement.
Oui, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, et Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État aux transports, reçoivent depuis ce matin les syndicats de la SNCF, notamment. Aurélien Fleureau, vous êtes sur place pour Europe 1. Aurélien, la CFDT Cheminot annonce à son tour qu'elle va déposer un préavis de grève reconductible.
Oui, un dépôt de préavis technique pour éventuellement rentrer dans le mouvement et rejoindre les autres syndicats de cheminots si ils ne sont pas écoutés d'ici au 5 décembre, effectivement. Il faut aussi préciser que la réunion avec les syndicats de la RATP, elle a été annulée, faute de combattants. Personne n'est venu. Et côté SNCF, ce sont donc les syndicats réformistes qui ont fait le déplacement. UNSA Ferroviaire, CFDT Cheminots. L'enjeu pour le gouvernement, c'était de convaincre ces deux syndicats, et notamment l'UNSA, un deuxième au sein de la SNCF, de retirer son préavis de grève illimité à partir du 5 décembre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, vient de sortir de cette réunion.
Alors nous sortons extrêmement déçus de cette réunion, car aucune avancée et aucune condition n'ont été données par rapport à nos revendications. Et donc nous sommes vraiment... abasourdi d'avoir 3 réunions pour au final sortir avec rien du tout.
Et ce que déplorent ce matin les cheminots, c'est que Jean-Paul Delevoye et Jean-Baptiste Djebbari en fait n'avaient aucun mandat pour négocier. Hein. Ils renvoient toute décision au Premier ministre, Édouard Philippe, qui doit recevoir les leaders syndicaux en début de semaine prochaine à Matignon. Et c'est uniquement là que se feront d'éventuelles annonces.
Aurélien Fleureau en direct du ministère des Solidarités et de la Santé.
Le retour d'Emmanuel Macron sur ses terres natales. Le chef de l'État est attendu de pied ferme du côté d'Amiens.
Oui, un retour périlleux de 2 jours. Une rencontre avec des étudiants en colère cet après-midi. Un face-à-face qui s'annonce tendu avec les ex-salariés de Whirlpool demain matin. Bref, Adrien Beck, Emmanuel Macron tente de déminer le terrain avant même son arrivée avec cette interview ce matin dans le Courrier Picard où il tente de casser l'image d'un président déconnecté.
Oui, le président joue la carte des racines version Emmanuel Macron, le Picard, je suis un enfant d'Amiens, assure-t-il à nos confrères, évoquant son enfance, sa famille, les paysages Picard. Bref, les ingrédients, ce sont ces mots d'une visite sentimentale, démonstration d'un attachement à son territoire, lui que ses opposants disent déraciné, trop parisien, lui qui, c'est vrai, a quitté la Picardie pour Paris à l'âge de 16 ans. Alors cette visite, l'un de ses proches veut la voir comme un retour au pays natal à tout point de vue, car c'est aussi à Amiens que s'est joué un tournant de la campagne du second tour en 2017, quand le candidat Macron avait rendu visite aux salariés de l'usine Whirlpool, menacé alors de fermeture. Depuis, l'usine a fermé, la reprise a périclité, 163 anciens salariés sont toujours sur le carreau. Un échec, reconnaît le président, qui va essayer de trouver des solutions, dit-on à l'Élysée. Mais l'accueil risque d'être mouvementé. Les anciens salariés de Whirlpool organisent dès cet après-midi une marche avant l'arrivée d'Emmanuel Macron.
Adrien Beck du service politique d'Europe. Merci.
Et on le disait, hein, Emmanuel Macron va rencontrer des étudiants cet après-midi sur fond de protestations dans plusieurs facs.
Oui, vous vous en souvenez, il y a eu ce jeune homme de 22 ans qui a tenté de s'immoler par le feu à Lyon le 8 novembre dernier. Son but, attirer l'attention sur sa précarité et celle de tous les autres étudiants.
La précarité étudiante, justement, c'est notre dossier du jour. Virginie Riva, vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1 et vous avez enquêté. Il y a clairement 2 catégories, ceux qui galèrent
et les autres.
Effectivement, et j'ai rencontré deux étudiantes. La première s'appelle Blanche, elle a 19 ans. Elle est obligée de travailler le soir pour s'en sortir.
Je fais les fermetures dans un club de sport 4 fois par semaine, donc ça me fait travailler 4 heures par soir. C'est de 18h30 à 22h30, sauf qu'en général je finis un peu plus tard parce que voilà, comme c'est la fermeture, les clients traînent. Ce qui pèse surtout, moi j'ai l'impression, c'est plutôt pour mon travail personnel, les devoirs que je dois faire, parce que finalement j'ai pas le temps, et en fait dès que j'ai un peu de temps, genre une heure ou deux chez moi, bah j'ai pas envie de travailler, mais je sais que si je travaillais pas, ce serait beaucoup beaucoup plus dur, je pourrais pas payer.
Voilà, et comme Blanche, 46% des étudiants travaillent pour pouvoir vivre. Blanche gagne à peu près 600 euros, à cela s'ajoutent 650 euros de bourse. Son loyer lui coûte plus de la moitié. Et une fois payé ses factures, il ne lui reste vraiment pas beaucoup pour vivre. Alors, autre profil croisé sur le campus, celui de Clara, même âge. Elle n'a pas besoin de travailler, elle vit chez ses parents. Donc, pas de loyer à payer. C'est ça, en général, qui pèse le plus dans le budget étudiant. Et voilà ce qu'elle dit quand elle entend ce que vit Blanche.
Je sais pas si j'aurai le courage de faire tout ça. C'est vrai que j'ai des conditions favorables. Je sors, je vais au restaurant, dans des bars. J'ai beaucoup de liberté. J'ai du temps libre aussi. Et c'est assez confortable. Je vis bien, on va dire. Je sais que mes parents sont là derrière moi.
Voilà, deux situations totalement différentes. C'est d'ailleurs ce qui explique aussi la faible mobilisation étudiante pour l'instant. Ceux qui travaillent et sont précaires n'ont pas le temps d'aller aux AG ni de manifester. Quant aux autres, ils ne se sentent pas vraiment concernés.
Merci Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. Et à propos de mobilisation, une première journée est prévue à l'appel d'une intersyndicale le 26 novembre avant de rejoindre le mouvement du 5 décembre.
Il est midi 11.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Une appli censée vous faciliter la vie pour toutes vos futures formations. A tout de suite.
Et les midi 13, la suite de votre journal avec Sébastien Guyot et Raphaël Duchemin.
Ça s'appelle Mon Compte Formation, une nouvelle appli présentée ce matin par Édouard Philippe pour promouvoir, Sébastien, la formation professionnelle.
Oui, alors vous la téléchargez sur votre téléphone portable, oui. Vous accédez à votre compte formation, allez-y.
Oui.
Cela concerne tout de même 25 millions d'actifs en France, les salariés du privé, mais aussi les chômeurs. Olivier Samin, vous êtes au campus des métiers de l'automobile à Guyancourt dans les Yvelines. C'est là que le Premier ministre vient de présenter ce dispositif qu'il estime être l'un des plus importants depuis le début du quinquennat.
Oui, d'où la forte communication gouvernementale depuis ce matin pour présenter ce nouvel outil qui permet dès aujourd'hui aux 25 millions de salariés du secteur privé et aux chômeurs de découvrir sur leur téléphone portable le montant en euros de la somme qu'ils peuvent utiliser pour financer la formation de leur choix, de sélectionner la formation en question et de s'inscrire. Tout ça sans intermédiaire. Pour Édouard Philippe, c'est tout simplement une révolution.
Il n'est pas très courant qu'on dise à 25 millions de Français, vous avez un droit et vous ne l'exercez pas aujourd'hui, mais grâce à ça, vous allez pouvoir l'exercer. Et il n'y a pas de bémol ou de mauvais côté, on n'enlève rien. Au contraire, on permet que ce soit efficace et que ce soit réel.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, un actif sur trois seulement a accès à la formation, surtout des personnes déjà qualifiées, peu de salariés de PME et pas assez de chômeurs. Dans l'esprit du gouvernement, cette nouvelle appli Mon Compte Formation va permettre une vraie démocratisation.
Merci Olivier Samin en direct du campus des métiers de l'automobile à Guyancourt dans les Yvelines. L'économie mondiale ne se porte pas franchement mieux. L'OCDE abaisse sa prévision de croissance pour 2020, 2,9%, ce qui en ferait rêver plus d'un peut-être en France, et ne prévoit pas de franche reprise de toute façon en 2021.
Bientôt une semaine, hein, Sébastien, que des foyers sont sans électricité en Rhône-Alpes après les chutes de neige abondantes.
3500 foyers concernés encore ce matin. On a beaucoup parlé des zones rurales, souvent inaccessibles et particulièrement touchées. Sauf que 6 jours et 6 nuits après, certaines zones urbaines sont toujours sans électricité. C'est le cas à Valence, dans la Drôme, où vous vous trouvez, Jean-Jacques Héry pour Europe 1.
Oui, hein, puisque selon la mairie, il y aurait toujours 500 foyers valentinois privés de courant depuis maintenant une semaine, et une semaine sans eau chaude et sans lumière, eh bien, ça commence à faire long pour les habitants de cette barre HLM située pourtant en plein centre-ville.
Ils n'ont pas d'électricité et puis il y en a qui n'ont pas d'eau chaude.
Ils nous disent rien, on ne sait pas.
Il faut attendre, madame, il n'y a pas que vous.
Elle a 4 enfants en bas âge, cette dame-là. Vous vous rendez compte, 4 gamins en bas âge, pas d'électricité, elle a tout jeté, tout ce qui est dans son congé. Oh, c'est grave quand même, hein.
On dirait qu'on vit au Liban.
Aujourd'hui, ça devient invivable dans ce quartier. Hein. Il y a beaucoup de personnes âgées quand même dans ce quartier qui sont obligées ou de partir ou de rester sans lumière. Quoi. Tout le monde les appelle tous les jours et ils nous renvoient au lendemain. Il y en a marre.
Et cette colère, elle est largement partagée par le maire de la ville, Nicolas D'Aragon. Il tacle Enedis, une entreprise experte en réseau électrique, dit-il. mais catastrophique en communication.
On sait depuis hier qu'il nous reste environ 500 foyers coupés, alors que pendant tout le week-end, Enedis nous a dit qu'on en avait 150, ce qui signifie que peut-être que pendant le plus fort de l'épisode, on en a eu 1500 ou 2000. Donc je suis, moi, très en colère contre l'entreprise Enedis qui ne met pas les moyens pour communiquer. Et nous, collectivités, nous sommes sollicités par nos concitoyens et nous n'avons également aucune information, voire des informations fausses.
Enedis doit encore intervenir sur 5 réseaux aujourd'hui, 12 autres interventions sont prévues demain. Vous l'avez compris, certains devront donc encore au moins passer une nuit supplémentaire sans électricité.
Jean-Jacques Herry, envoyé spécial d'Europe 1 à Valence, dans la Drôme. Encore un rapport accablant pour la mairie de Marseille. Selon le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, la cité phocéenne vit une véritable crise humanitaire. En cause, les carences de la mairie, mais aussi de l'État. Il y a un an, 8 personnes avaient été tuées dans l'effondrement de 2 immeubles délabrés.
C'est un titre ironique qui barre la une du Daily Mirror ce matin en Angleterre. Sébastien, je suis désolée, maman.
Le journal se moque du prince Andrew, le deuxième fils de la reine d'Angleterre, englué dans l'affaire Epstein. Il est accusé, vous le savez, d'agression sexuelle par une jeune fille qui avait 17 ans en 2001. Le prince Andrew a donc annoncé hier soir qu'il se retirerait de la vie publique. C'était inévitable, selon les Britanniques rencontrés par Johanna Chabas dans les rues de Londres.
Le prince Andrew est partout ce matin, sur les unes des journaux, dans les conversations. Devant un kiosque, Nicolas vient de voir la nouvelle. Elle est convaincue de la culpabilité du prince.
S'il était innocent, alors pourquoi il partirait? En plus, il a 2 filles. Comment il se sentirait si c'était ses filles les victimes? Si on faisait ça à ses filles? Je trouve ça dégoûtant, pour être honnête.
La pression était trop forte pour le prince après son interview à la BBC samedi où il a vainement essayé de se justifier. Toute la presse ici décrit cette entrevue comme ratée avec un duc qui n'a pas su montrer de la compassion envers les victimes. Aïcha l'avait regardé.
Tout le monde a trouvé ses excuses ridicules. Tous ceux à qui j'en ai parlé étaient outrés, avaient les yeux au ciel. C'est bien qu'il se retire, c'est le meilleur moyen de limiter les dégâts.
D'après les journaux britanniques, ce matin, ce serait en fait la reine qui aurait poussé son propre fils vers la sortie. Elle n'avait pas le choix, selon Jérémy.
Elle est la grande patronne, non? Tout ce qu'elle dit se réalise, donc il faut que le public la voie réagir. Elle protège son image aussi.
Il espère maintenant que le prince aidera les enquêteurs dans l'affaire Epstein. C'est en tout cas une de ses promesses faites dans son communiqué hier soir.
Johanna Chabas, correspondante d'Europe 1 en Angleterre.
Il est midi 19.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Le tennis, la Coupe Davis, ça passe ou ça casse pour l'équipe de France face à la Serbie de Djokovic.
Et puis, le Beaujolais nouveau est arrivé quand même.
Ah bah quand même.
On va en parler.
À tout de suite.
Il est midi 22, la suite de votre journal, Sébastien Guyot, Raphaël Duchemin.
La Coupe Davis de tennis, Sébastien. Ah, l'avenir de l'équipe de France se joue en ce moment même à Madrid, en Espagne.
Oui, et nous filons tout de suite rejoindre notre envoyée spéciale, Corinne Boulou. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Les Bleus affrontent donc la Serbie du numéro 2 mondial Novak Djokovic pour une place en quart de finale. Ils n'ont donc pas le droit à l'erreur. Et c'est actuellement Joe Wilfried Tsonga qui est sur le court face à Krajinovic.
Oui, compliqué, très compliqué pour Joe Wilfried Tsonga, mené 1-7-0, Sébastien, par Filip Krajinovic. Le Serbe, 40e mondial, a remporté la première manche 7-5 sans avoir été inquiété sur son service, alors que Tsonga doit batailler sur tous ses engagements. Il faut donc que le Français, 29e mondial, hausse son niveau de jeu s'il veut encore espérer quelque chose face à Krajinovic. Après une heure de jeu, le Français s'est procuré il y a quelques secondes une première balle de break, mais gâchée sur une faute en coup droit. Nous en sommes à 2 jeux partout dans ce deuxième set. Ce n'est donc pour le moment pas très rassurant quand on sait que ce match est important dans l'optique d'un éventuel quart de finale demain. C'est le match à ne pas perdre, sachant que derrière, Djokovic s'annonce comme grandissime favori face à Benoît, père préféré à Gaël, mon fils en méforme.
Merci Corinne Boulou, envoyée spéciale d'Europe 1 à Madrid. On va suivre ça avec vous toute la journée.
Vous avez regardé le calendrier ?
Oui.
Oui, nous sommes le 3e jeudi de novembre.
Et alors ?
Et alors, pour les amateurs de vin, bah ça veut dire quelque chose, Sébastien.
Et oui, ça veut dire l'arrivée du Beaujolais nouveau. A-t-il un goût de banane, de cerise ? C'est l'éternelle question. En tout cas, c'est une opération commerciale importante pour les bistrots. Hélène Terzian, vous vous trouvez dans un café du 15e arrondissement de Paris où l'on est déjà prêt à accueillir les amateurs de Beaujolais.
Et oui, ça y est, depuis une bonne heure maintenant, les verres de vin ont remplacé les tasses à café sur le zinc. C'est au tour de Xavier de commander.
On remplit le verre de Beaujolais. J'ai maintenant qu'on l'a rempli, on peut le vider.
C'est pas mal. Il est léger, un peu fruité, agréable.
Juste à côté, Marc est bien plus convaincu.
Excellent cette année. Donc il a ni goût de banane, il a un goût très rond.
et il est très parfumé.
Alors il y en a toujours certains qui préfèrent faire de la résistance avec leur café crème.
C'est du marketing, tout le monde le sait depuis le départ. Moi, j'ai jamais compris pourquoi même on pouvait boire ça, c'est pas bon. Donc.
Malgré les récalcitrants, le jour du Beaujolais reste un jour de fête pour les commerçants comme Kenny.
Oui, tout à fait, oui, ça fait plaisir. La tradition est respectée.
Vous aussi, vous allez goûter?
Oui, bien sûr, oui. Ah oui, il faut goûter ce qu'on sert quand même. Vous aussi, vous allez goûter?
Un petit peu alors. Hein. Ouais, c'est bon. Non, il n'a pas le goût de banane, je suis assez d'accord avec vous. Bon, avec modération toujours. Hein.
Toujours.
Certains préfèrent d'ailleurs attendre ce soir pour le goûter.
Merci Hélène Terzian. Le Beaujolais nouveau, vous avez raison, à consommer avec modération, surtout s'il a un goût de banane.
Oui, manifestement, c'est pas le cas, mais on attend, parce que nous, on n'a toujours pas goûté.
Apparemment, merci.
Tout à l'heure, 13h pour un nouveau journal, Sébastien Guyot.
Il est midi 24.
Europe 1.
Deux experts pour ausculter deux projets qui démarrent, c'est la France Bouge Academy. Et c'est eux qui inventent la société de demain. On vous attend bien sûr, à tout de suite.